l'écoute d'RFI, il est 8h30 à Paris et N'Djamena 7h30 à Conakry.
RFI Matin.
Et tout de suite, c'est le journal de Nemo en piste.
Il y a eu une décision très consciente de sous-estimer le stock de la dette. Les propos d'Edouard Gemayel, chef de la délégation du FMI au Sénégal, qui vient confirmer le rapport de la Cour des comptes. 7 milliards de dollars cachés entre 2019 et 2024. Vous l'entendrez dès le début de cette édition. Deux nouvelles arrestations au Burkina Faso, c'était hier. Cette fois, ce sont deux journalistes qui ont été interpellés à Ouagadougou par des hommes en civil. La semaine dernière, ils avaient dénoncé des atteintes à la liberté d'expression jamais égalée depuis l'arrivée au pouvoir des militaires. Que sait-on de l'annulation de la visite des experts des Nations Unies à Goma? La décision aurait été prise unilatéralement par le groupe politico-militaire AFCM-23. On s'interroge dans ce journal. Et puis la polémique et les critiques qui persistent au Nigeria après la décision du président Bola Tinubu de déclarer l'état d'urgence dans l'état de Rivers et de suspendre tous les élus de la région. La délégation du Fonds monétaire international présente au Sénégal depuis une semaine confirme qu'une partie de la dette nationale a été cachée. C'était de 2019 à 2024 sous l'administration de l'ancien président Macky Sall, donc pour un montant d'environ 7 milliards de dollars, ce qui vient appuyer les résultats du rapport de la Cour des comptes publié il y a quelques semaines. Celui qui mène cette délégation du FMI, c'est Edouard Gemayel. Léa Lisa Vesteroff, notre correspondante à Dakar, a pu s'entretenir avec lui.
Comme le rapport de la Cour des comptes le dit très clairement, il y a eu une décision qui était très consciente de sous-estimer ce stock de la DEC pendant les années précédentes. Donc on est d'accord avec la conclusion du rapport de la Cour des comptes.
Donc on peut parler de mensonge.
Il y a une sous-estimation. Donc on a eu une partie de la dette qui a été cachée et ceci a permis aux autorités de pouvoir s'endetter plus sur les marchés, de donner un signal plus positif aux marchés financiers et aussi de pouvoir s'endetter à des taux plus favorables que ce que ces taux auraient été si la dette était plus élevée.
Des sources parlent de 7 milliards de dollars qui auraient été détournés. Vous confirmez ?
25% du PIB, c'est à peu près 6-7 milliards de dollars. Je ne dirais pas détournés, c'est un endettement qui n'a pas été dévoilé. Et donc le stock de la dette a été sous-estimé par à peu près ce montant, 6-7 milliards de dollars.
Edouard Gemayel, chef de file de la délégation du FMI au Sénégal, également l'invité de la matinale. Vous retrouvez l'intégralité de son entretien avec Léa Lisa Vesteroff sur l'application RFI Pure Radio ou sur RFI.fr. J'ajoute que le FMI, qui a suspendu son prêt, demande aux nouvelles autorités d'adopter des mesures correctives pour qu'un tel événement ne se reproduise plus. L'institution qui dit également espérer le plus tôt possible un nouveau programme d'aide en faveur du Sénégal. Le Sénégal, on continue d'en parler ce matin. Vous nous dites ce que vous pensez de la première année de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir dans Appel sur l'actualité. Rendez-vous à 8h10, temps universel, Juan Gomez vous attend. Au Burkina Faso, le rythme des enlèvements semble s'accélérer. Deux journalistes ont été enlevés hier dans la capitale, Gezouma Sanogo et Boukari Ouoba, respectivement président et vice-président de l'Association des journalistes du Faso. Ils ont tous deux été embarqués sans mandat par des hommes en civil, disant appartenir aux renseignements nationaux, avant d'être convoyés vers une destination inconnue. Deux disparitions supplémentaires qui s'ajoutent à celles de la semaine dernière au sein du mouvement politique Sens. En moins d'une semaine, 7 personnes considérées comme des voix critiques des militaires au pouvoir et du capitaine Ibrahim Traoré ont été kidnappées ou emmenées sans motif officiel. Le récit de Sidi Yansane.
Les dernières activités publiques de Gezouma Sanogo et Boukari Ouoba remontent à vendredi dernier à Ouagadougou lors du congrès extraordinaire de l'Association des journalistes du Burkina Faso. Tous deux viennent tout juste d'être élus président et vice-président du bureau national de l'AJB et s'expriment sur la détérioration continue des conditions de vie et de travail de la presse burkinabé. Le président Gezouma Sanogo ne mâche pas ses mots sur les atteintes à la liberté d'expression sous le régime militaire du capitaine et président de transition Ibrahim Traoré.
La tendance actuelle est à l'alignement avec une totale mainmise du MPSR2 sur les médias publics dont la RTB Télé et l'AIB sont devenus les deux principaux outils de propagande. Depuis lors, le pouvoir a expulsé tous les médias indépendants et manœuvré pour fermer les médias indépendants au plan national. Une autre caractéristique, la haine et la diabolisation des médias, se traduit par les enlèvements et les séquestrations des journalistes les chroniqueurs, les atteintes à la liberté d'expression et de la presse ont atteint un niveau jamais égalé.
La semaine dernière, c'est dans les rangs du mouvement politique Sens que se sont enchaînées les arrestations sans motif ni mandat. Son secrétaire national, Idrissa Barry, a été emmené par des hommes en civil se présentant comme des gendarmes avant que quatre de ses camarades soient eux aussi emmenés vers une destination inconnue quelques jours plus tard. Juste avant ces disparitions, Sens dénonçait les massacres récents de Peul à Solenzo dans l'ouest du pays, massacre attribué à l'armée burkinabé et ses VDP.
Sidi Yansan et RFI 8h35 à Paris, à N'Djamena. Quelques nouvelles ce mardi d'Olivier Monodji, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, et c'est également l'un des correspondants de RFI au Tchad. Il avait été arrêté il y a 20 jours avant d'être inculpé pour intelligence avec une puissance étrangère pour certains de ses articles parus dans l'hebdomadaire. Hier, il a été entendu par un juge d'instruction dans la capitale, une audition qui a duré environ 1h30 et au cours de laquelle il a été interrogé sur le dossier transmis par le parquet. Maître Alain Diliam est l'un des avocats d'Olivier Monodji et il se dit confiant.
Nous, à la fin de cette audition, nous sommes rassurés, une fois de plus encore de son innocence, que nous avons déjà cru dès le départ. Et nous sommes aussi rassurés par rapport au dossier qu'on a vu et par rapport à ce qu'on lui a reproché. Nous sommes également rassurés de l'attitude du juge d'instruction qui nous a véritablement prouvé qu'il est en train d'instruire à charge et à décharge. Et nous sommes confiants qu'il dira le droit et nous sommes confiants que le droit serait du côté de Monodji Olivier.
Maître Alain Diliam, l'un des avocats d'Olivier Monodji, joint par Lisa Fabian. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo et à Goma ce matin, capitale du Nord Kivu, où devait séjourner une mission du groupe d'experts des Nations Unies, mandatée par le Conseil de sécurité. Elle a finalement été annulée. Le groupe était chargé de vérifier si les sanctions internationales étaient respectées sur le territoire, parmi elles l'embargo sur les armes, le gel des avoirs ou encore les interdictions de voyage visant certains groupes armées et d'autres acteurs du conflit. C'est le mouvement politico-militaire AFCM-23 qui a annoncé cette annulation ce week-end. Et d'après plusieurs sources, c'est une décision unilatérale. Plus d'explications avec Patien Ligaudy.
C'est un message tombé au dernier moment, laconique, sans justification précise, si ce n'est la transmutation d'agenda évoquée par l'AFCM-23. Le communiqué est arrivé alors que la délégation onusienne était déjà en route pour Kigali, dernière étape avant de rejoindre Goma. Cette mission devait pourtant aborder des sujets sensibles. D'abord, les revendications politiques de l'AFCM-23 et les conditions d'un éventuel cessez-le-feu humanitaire. Autre dossier sur la table, les récentes arrestations de combattants des FDLR et d'autres groupes armés dans les régions sous contrôle de l'AFCM-23. Certains de ces éléments ont été remis aux autorités rwandaises. Selon les informations des RFI, les experts de l'ONU s'intéressaient aussi au statut des militaires congolais, des policiers et même des groupes armés qui se sont rendus après les affrontements. Et autre sujet délicat, la gestion des ressources naturelles. Des questions devaient être posées sur la production, la commercialisation et l'exportation des minerais dans les zones contrôlées par l'AFCM-23, notamment à Rubaya. Les experts voulaient savoir aussi quelles mesures sont mises en place pour éviter que des minerais interdits ou non traçables n'entrent dans les circuits commerciaux internationaux.
Patient Ligaudy, et c'est dans ce contexte de toujours très forte tension dans l'est du pays que les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'Union nationale ont débuté hier. La majorité au pouvoir était la première à être entendue. Un processus, je vous le rappelle, très largement boycotté par les principaux partis d'opposition. Et puis, les organisateurs du concert Solidarité Congo avaient prévu son report. La date du 7 avril est finalement maintenue. Le choix de la date avait fait polémique puisque c'est la journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Pour les organisateurs du concert, la date est tout sauf un choix politique. Au Soudan, une frappe des paramilitaires sur une mosquée de Khartoum a fait 5 morts et des dizaines de blessés dimanche soir. Une attaque répertoriée par un collectif d'avocats pro-démocratie. C'est la deuxième offensive des forces de soutien rapide depuis la reprise de la capitale par l'armée régulière la semaine dernière. Toujours selon cette même source. Et puis on l'apprend à l'instant, une frappe de l'armée sur un marché du Darfour Nord a tué des centaines de civils. Information dévoilé à l'instant par ce même groupe d'avocats. Et puis au Soudan du Sud, le parti du vice-président Riek Machar a dénoncé des frappes sur une des bases militaires près de la capitale, Djouba. Voilà plusieurs semaines qu'un regain de tension avec le camp du président Salva Kiir met en péril l'accord de paix signé en 2018. Washington s'est notamment dit profondément préoccupé par cette escalade de violence. De leur côté, les Nations Unies dénoncent les attaques indiscriminées et incessantes contre des civils, particulièrement des bombardements aériens avec des engins qui contiendraient un liquide hautement inflammable. La fin de ce journal au Nigeria où l'opinion publique reste très divisée. La semaine dernière, le chef de l'État, Bola Tinubu, a décidé de déclarer l'état d'urgence dans l'état de Rivers, la principale région pétrolière du pays. Lui qui a également, il y a une semaine, décidé de suspendre tous les élus de la région suite à des mois de tensions, là aussi, entre le nouveau gouverneur de l'État, Simina Layayi Fubara, et son prédécesseur, Nyesom Wike, lui qui est accusé de vouloir maintenir son influence dans la région. Les choix du président nigérian sont donc extrêmement critiqués. Elisa Fabian, il risque d'alimenter l'instabilité locale.
Plusieurs gouverneurs du Parti démocratique populaire, le principal parti d'opposition au Nigeria, ont déposé une plainte auprès de la Cour suprême pour contester la déclaration de l'état d'urgence par le président Bola Tinubu dans l'état de Rivers. Ils affirment que le chef de l'État n'a pas le pouvoir constitutionnel de suspendre un gouverneur et un vice-gouverneur élus démocratiquement. Ils soutiennent aussi que la nomination d'un administrateur unique pour 6 mois dans cette région est inconstitutionnelle. De nombreuses voix se sont élevées ces derniers jours pour dénoncer un dangereux précédent. Certains soupçonnent même le président Bola Tinubu de vouloir imposer la paix pour mieux reprendre le contrôle de l'état de Rivers et de ses ressources pétrolières. L'ancien gouverneur Nyesom Wike a beau être membre de l'opposition, il avait appuyé la candidature de Bola Tinubu lors de la présidentielle de 2023 et il a été nommé peu après ministre du territoire de la capitale fédérale. L'état d'urgence pourrait aussi avoir des conséquences sécuritaires dans cette région du delta du Niger où d'anciens groupes militants très liés aux politiciens locaux menacent encore régulièrement de saboter les infrastructures pétrolières.
Le Nigeria encore où 12 prisonniers se sont évadés tôt lundi matin d'une prison du centre du pays selon les autorités locales. L'un des responsables impute cette évasion à une compromission et une collaboration interne. Il a ajouté qu'un des prisonniers avait été appréhendé puis remis en détention. C'est à vous, Andréane Mellard.
Merci, Nemo en Peace.